Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre seconde série, notre deuxième série, complément à la première série qu'on a fait autrefois, de la démonologie. C'est l'étude numéro 2. Nous pourrons donner comme titre « Cage et malédiction ». Dring, dring, Rolf chercha le téléphone à tâtons dans la chambre obscure du motel. « Dring, oh, je viens », murmura-t-elle. Elle finit par trouver le téléphone et c'était la voix de Bertha. « Désolé de te déranger, mais je crois que tu devrais savoir ce qui se passe. » « Quelle heure est-il du reste ?» demanda Rolf en cherchant l'interrupteur. « Eh bien, il est 10 heures ici, » répondit Bertha. Rolf alluma la lumière et regarda sa montre. « Quoi ? Mais il est 1 heure du matin ici. Que se passe-t-il ? » Rolf et Elsie se trouvaient dans l'est des États-Unis, invités pour des conférences. Ils ne dormaient que depuis 1 heure, juste assez longtemps pour qu'il soit très dur de se réveiller. Ils étaient tous les deux épuisés après presque 1 semaine éreintante de séminaire. Esther et moi, nous sommes allés chez toi ce soir. Je me fais beaucoup de soucis à propos du couple que Sarah a invité dans ta maison. Rolf était encore un peu endormi. Qu'est-ce que tu dis ? Sarah sait très bien que quand elle reste pour garder notre maison, elle ne doit laisser entrer absolument personne chez nous sans notre permission. Voyons. Oh, je sais. Mais je crois qu'elle est complètement séduite et influencée, car elle pense qu'il s'agit d'un couple de serviteurs de Jésus-Christ. Du reste, l'homme se dit lui-même prophète de Dieu. Mais en réalité, je me demande quel Dieu il sert, expliqua Betty. Rolf s'assit, complètement réveillé. Cette nouvelle retenait toute son attention. Du reste, je te demande d'où vient ce gaillard et depuis combien de temps est-il là ? Eh bien, je ne sais pas où juste d'où il vient, mais il est là depuis 3 jours. Il voyage avec sa femme dans une voiture de location. Apparemment, Sarah les a rencontrés il y a 2 ans, et ce prophète dit qu'il a été envoyé chez toi par Dieu. Oui. Alors, qu'a-t-il fait ? Voyons qu'est-ce qu'il a fait pour te faire penser qu'il n'est pas un véritable serviteur de Jésus-Christ, demanda Rolf. Eh bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, pendant qu'il parle sur quelque chose, sa femme reste assise sur le divan en roulant ses yeux du haut en bas et en fredonnant ce qui ressemble à des incantations, des sortes de gens paisibles, de chants, des chansons paisibles, et en se balançant d'avant et en arrière. J'ai essayé de lui parler 2 ou 3 fois, mais elle ne m'a même pas répondu. Il semble qu'elle ne m'entend pas. On aurait dit qu'elle était plongée dans une sorte de transe. Mais ce qui a réellement retenu mon attention, c'est quand il a commencé à nous raconter qu'il avait un chien qu'il aimait vraiment beaucoup. Et il nous a dit que Dieu lui avait dit qu'il aimait beaucoup trop son chien et que de ce fait, il devait le sacrifier comme Abraham a dû sacrifier Isaac. Il a dit qu'il a ensuite amené le chien au dehors, qu'il l'a tué et il l'a sacrifié en le brûlant vif sur un bûcher. Il nous a aussi dit qu'il voyait tout le temps dans le monde spirituel. Il a longuement parlé du fait qu'il voyait des choses. Il dit qu'il voit continuellement des démons sur le plan spirituel. Or les chrétiens ne peuvent pas voir comme cela tout le temps dans le monde spirituel. Je n'ai du reste jamais pu lui faire confesser qui il sert vraiment, car il a toujours évité de répondre à mes questions et continue à répéter simplement qu'il est un prophète de Dieu. Oh là là, gémit Rolf. Est-ce que Sarah n'a pas pensé que tout cela paraissait un peu étrange? Spécialement le fait de sacrifier son chien. Non, 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 et c'est là le problème, répondit Bertha. Elle a répondu cela d'un ton même très sérieux. Oh, cela ne m'étonne pas qu'elle n'ait même pas entendu ce qu'il disait, car elle semble être totalement sous l'emprise de ce gaillard. Elle pense que tout ce qu'il dit est merveilleux. Du reste, il n'arrête pas de dire à tout bout de champ « Loué soit le Seigneur ». Mais je peux te dire qu'il y a une terrible oppression démoniaque dans ta maison maintenant. « Que se passe-t-il ? » demanda Elsie, qui avait aussi fini par se réveiller. Rolf l'informa rapidement de ce que Bertha venait de lui dire. « Bon, bon, nous savons que Sarah est une véritable servante de Jésus-Christ, » commenta Elsie. « Alors, ce soi-disant prophète a dû la mettre en cage. Quoi ? Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mettre quelqu'un en cage ? Demanda Rolf. Tu ne m'en as jamais rien dit de cela auparavant. Oui, je sais. Mais je n'avais aucune raison de penser à cela auparavant, dit Elsie. Rolf se tourna vers le téléphone parce que Bertha continuait à lui parler. Chuck l'a aussi rencontré aujourd'hui à son bureau et il ne s'est pas du tout senti en paix à son sujet. Lui non plus n'a pas pu le pousser à donner un témoignage quelconque pour qu'il confesse qui vraiment il sert. Il a aussi dit à Jack simplement qu'il était un prophète de Dieu. Jack pense du reste qu'il pourrait être un serviteur de Satan. Eh bien, cela nous donne une confirmation. Je suis content que Jack ait rencontré cet homme, dit Rolf pensivement. Il dit aussi tout le temps que Dieu lui a demandé de ne jamais travailler. Cela n'est certainement pas confirmé par 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, dit enfin Bertha. Est-ce que Esther est avec toi ? Demanda Rolf. Oh oui, 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 oui. je n'ai pas pu la laisser là-bas, tellement ce gaillard me mettait mal à l'aise. « Bien, » dit Rolf, soulagé. « Garde-la chez toi jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Je vais contacter Sarah et lui demander que ce couple parte immédiatement. Sans parler de ce qu'il y aura dans notre maison d'ici le moment où nous serons revenus. » Rolf ne se doutait absolument pas de tous les terribles problèmes qu'il rencontrerait quand il serait rentré. Lorsque Rolf eut raccroché le téléphone, il se tourna vers Elsie. « Eh bien maintenant, oui maintenant, parle-moi un peu plus de cette incantation pour mettre quelqu'un en cage que tu as mentionnée. » Eh bien, c'est une incantation très puissante qui est souvent employée par les serviteurs de Satan. Ils mettent littéralement une personne en cage, spirituellement parlant, afin qu'elle ne puisse pas remarquer leurs mauvaises actions ou qu'elle croie les mensonges répandus sur quelqu'un. C'est comme si l'on mettait des oreillères mentales sur quelqu'un. Tu sais, comme les fameuses oreillères qu'on mettait sur les chevaux pour qu'ils ne puissent voir que dans une seule direction devant eux. Les satanistes l'utilisent très souvent contre les chrétiens pour que les chrétiens ne puissent pas discerner qu'ils ne sont pas de véritables serviteurs de Jésus. Une fois que la personne est mise en cage, il est ensuite facile pour un sataniste de lui injecter toutes sortes de pensées fausses, et cette personne ne comprendra pas que ses pensées ne sont pas en harmonie, pas du tout, avec la sainte parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de doctrines fausses sont souvent acceptées dans les églises chrétiennes. Il me semble que cette incantation est très dangereuse. Je peux dire dangereuse pour les chrétiens, dit Rolf avec sérieux. Comment peut-on se protéger et éviter de se faire mettre en cage? Eh bien, je ne sais pas où juste, dit Elsa, plutôt Elsie. J'ai seulement appris à utiliser cette incantation, mais pas à m'en protéger. Et quand j'étais dans le satanisme autrefois, je faisais bien attention à ceux qui essayaient de m'influencer ou de me contrôler. Pardon. J'étais toujours la première à leur envoyer cette incantation pour les mettre en cage et pour les empêcher de me mettre moi en cage. Fouille, quel gâchis! S'exclama Rolf. Oui, c'est bien vrai. Toute ma vie était dominée par la peur. Il fallait que je sois sans cesse sur mes gardes, parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient m'éjecter de ma position. On n'a aucune paix, aucune, quand on sert Satan. Tous les deux restèrent ainsi silencieux pendant quelques minutes, pensives dans la prière. Finalement, Rolf prit la parole. Eh bien, n'importe quelle incantation peut être brisée par le saint nom de Jésus, mais je crains que ce soit la personne mise en cage qui doive elle-même le demander pour la briser. Ce n'est pas rien que d'amener une personne déjà mise en cage à reconnaître qu'elle a besoin de briser une telle incantation, car elle refusera de croire qu'elle se trouve sous une influence démoniaque quelconque, parce qu'elle est maintenant spirituellement mise en cage. C'est exactement vrai, dit Elsie. Mais tu sais, quand j'étais dans le satanisme, j'ai découvert qu'il m'était impossible de mettre en cage les chrétiens, les véritables chrétiens, qui refusaient d'accepter n'importe qui ou n'importe quoi sans aucun contrôle, mais qui vérifiaient absolument toute chose dans la parole de Dieu. C'était aussi ceux qui ne se laissaient pas séduire par quelqu'un simplement à cause de son charisme. Je pense que nous pourrions dire qu'ils étaient comme ces Juifs de Béreille dont l'apôtre Paul faisait si hautement l'éloge, parce qu'ils sondaient en effet les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul prêchait était vraiment vrai. Il m'était donc facile de mettre en cage ceux, oui ceux, qui ne prenaient réellement pas la peine de réfléchir par eux-mêmes et qui étaient disposés à suivre ceux qui avaient un grand charisme. Rolf hocha la tête. Eh bien oui, c'est précisément l'un des plus grands problèmes dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, car il y a beaucoup trop de gens qui sont atteints ou qui ont atteint une position de dirigeant spirituel, et ceci pour la simple raison qu'ils ont une personnalité très, disons, assez charismatique. Je répète pour pas que ce soit mal compris, il y a trop de gens aujourd'hui qui ont atteint une position de dirigeant spirituel tout simplement parce qu'ils ont une personnalité assez charismatique qui attire évidemment, naturellement, les gens. Et je me suis souvent demandé quelle part de ce soi-disant charisme n'était en fait qu'une puissance démoniaque. Et je suis certain qu'une partie de ce charisme est naturelle, pourquoi pas? Mais je pense qu'une grande partie peut aussi être démoniaque. Alors je suis sûr que tu as raison. Un sataniste qui sait bien utiliser ses démons attirera à lui des foules de gens, des gens qui penseront qu'il est le plus aimable et le plus attentionné des hommes qu'ils connaissent, un peu comme des abeilles qui sont attirées par le miel. Mais les Saintes Écritures, ces Saintes Écritures sont tout de même très claires. Satan a toujours agi par la séduction et il agira toujours ainsi. Il en est de même pour ses serviteurs. Je suis quand même très préoccupé par ce problème et je prierai régulièrement pour que je sois gardé de toute incantation visant à me mettre en cage, dit Rolf en se couchant. Dans 2 jours, ils seraient chez eux, rentrés chez eux, et ils se demandent ce qu'ils trouveront en rentrant à la maison. Lorsque Rolf et Elsie sont retournés chez eux, le fameux prophète et sa femme étaient déjà repartis. Sarah partit aussi presque aussitôt. Et ce soir-là, Betty et Esther sont venues dîner avec elle. Et l'oppression démoniaque dans la maison était très intense. Rolf et Elsie étaient carrément épuisés. Fouille ! S'exclama Bertha en franchissant la porte. Il semble que cette maison est remplie de démons. Oh oui, je le sais, dit Rolf d'un ton las. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je n'ai absolument pas la force de visiter toute la maison ce soir. J'ai prévu de rester avec vous cette nuit, dit Bertha, et je pense que vous pourrez avoir besoin de renfort. Je vais donc commencer à aller oindre toute la maison pendant que vous finissez le repas. Et elle prit une bouteille d'huile et commença à oindre la maison. Je crains que l'onction seule ne va peut-être pas suffire, dit Esther. Pendant que j'étais là, ce fameux prophète est allé partout pour, soi-disant, bénir la maison, chaque pièce de la maison. Il a aussi dit qu'il allait marcher tout autour du terrain pour bénir également tout le terrain autour de la maison. Oh non ! Alors, il nous manquait plus que cela, gémit Rolf. Cela signifie qu'il nous faudra aller, laver, nettoyer tous les endroits où il a pu mettre de l'huile pour enlever complètement les malédictions. Car Satan, on le sait, il imite tout ce qui est biblique. Quand ils ont enfin fini de dîner, la soirée était déjà bien avancée. Au moment du coucher du soleil, l'oppression démoniaque commença à s'accroître dans la maison. Tout le monde se sentait faible, malade et épuisé. Alors ils décidèrent de tenter de survivre à la nuit et de commencer un grand nettoyage, on peut bien dire, un grand nettoyage de la maison le lendemain. Le lendemain, c'était un samedi. Joyce devait arriver le lendemain pour le week-end et elle se joindrait à eux pour les aider. Ils décidèrent tous de dormir par terre au salon afin d'être ensemble pendant la nuit car ils s'attendaient à un combat et ils commençaient juste à s'assoupir lorsque Esther se leva d'un bond. « Regardez, dit-elle, en montrant du doigt. » Rolf se redressa et s'assit. En effet, une tache de lumière bleuâtre était en train de pénétrer dans la pièce par la porte du patio. Rolf éleva la voix et il dit « Je te chasse. » Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je te commande de t'en aller. Quitte cette maison immédiatement. Alors la lumière bleue disparut. Oh, je peux vous dire que nous allons passer une assez mauvaise nuit, marmonna Rolf en se recouchant. Ils réussirent à dormir une heure ou deux, et puis la lumière bleue revint à nouveau dans le salon, réveillant d'abord Rolf, puis les autres. Elle disparut dès que Rolf l'eut chassée. Le reste de la nuit passa, mais personne ne dormit très bien. Joyce arriva le lendemain matin. Ils s'assirent tous ensemble pour discuter de ce qu'ils devaient faire. Bertha parla la première. « Eh bien, tout d'abord, je veux en savoir davantage sur ces incantations, soi-disant pour mettre en cage quelqu'un. Oh, ces choses sont très répandues dans la sorcellerie, dit Joyce. Elles sont faciles à faire, mais très difficiles à briser. Je peux dire qu'il est difficile de se rendre compte que l'on est lié par l'une de ces incantations. Certaines personnes ne le savent absolument pas, et pourtant, elles sont mises en cage, à leur insu. Elsie prit une feuille de papier. Voilà, dit-elle. Laissez-moi vous montrer certains des symboles que vous pourrez rechercher. Vous pourrez trouver des bouts de papier avec des symboles comme ceux-ci, c'est-à-dire un pentagramme ou des baguettes. C'est vrai, approuva Joyce. Bien souvent, ces incantations seront placées sur le terrain de la personne que l'on veut lier. Je parie que nous pourrons en trouver sur votre terrain si nous cherchons bien. Cela peut être fait simplement avec quatre baguettes ou des brindilles. On les place sur le sol comme ceci et elles ressemblent à quatre baguettes de bois qui sont tombées soi-disant naturellement au sol. C'est exact, dit Elsie. Au centre du carré ou du rectangle formé par les brindilles ou par les baguettes, on place un objet quelconque, comme un cheveu, un bouton, ou n'importe quoi de petit, comme quelques fils qui peuvent être tirés de ton vêtement. On peut aussi écrire ton nom, tout simplement, sur le sol, au lieu de placer un objet. Et Joyce approuva exactement. Est-ce que ce bout de papier doit être placé dans la maison de la personne ou sur la personne même pour que l'incantation soit efficace? Demanda Rolf. Non, 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 répondit ensemble Elsie et Joyce. Ce sont simplement des choses dont on peut rechercher la présence. Si tu en trouves chez toi, alors tu peux être sûr que cette incantation a été faite. Et comment? Donc, il faut aussi que nous devons regarder s'il n'y a pas des lignes qui sont tracées au sol, dit Joyce. Qu'est-ce que c'est encore ça? Demanda Rolf. Eh bien oui, pour faire ces lignes, il faut prononcer une incantation sur un bâton que l'on utilisera ensuite comme un genre de canne. Et on peut traîner cette canne au sol derrière soi. On dirait que l'on joue simplement avec un bâton comme pour passer le temps. Mais partout où ce bâton touche le sol, une ligne magique sera tracée. Et si tu regardes très attentivement, tu peux parfois voir une ligne très fine sur le sol, à l'endroit même où le bâton a été traîné. Choice continua. Et quand tu marches autour d'une maison, d'une propriété, que tu traces ces lignes magiques tout autour, c'est absolument comme si tu enfermais la propriété dans une cage géante. Ceci est fait pour les raisons suivantes. Premièrement, pour établir un droit de propriété pour les satanistes et pour Satan. Deuxièmement, pour placer des démons tout autour des limites de la propriété pour la garder. Troisièmement, pour placer des démons spéciaux, souvent appelés démons portiers ou ouvreurs, afin que les satanistes puissent facilement pénétrer dans cette propriété en faisant une projection astrale, c'est-à-dire sortir du corps en esprit. Vous voyez, il n'est donc pas si difficile de trouver son chemin quand on fait une projection astrale. Alors si vous placez certains démons particuliers dans les endroits où vous voulez aller, vous pouvez facilement vous y rendre par projection astrale. Quatrièmement, placer des sentinelles particulières. Ça, ce sont des démons dont la fonction est de monter la garde. Ils informent les satanistes sur tous ceux qui entrent dans la propriété ou sur tout ce qui s'y passe. Cinquièmement, finalement, les démons placés dans cet endroit doivent lier et aveugler tous ceux qui entrent dans la propriété. En d'autres termes, ils les mettent tout simplement en cage. « Oh, je vois, et je commence à comprendre, » dit Rolf. « Nous, nous marchons sur le terrain pour le sanctifier pour et par le Seigneur en lui demandant de placer ses anges maintenant tout autour. » Les satanistes font essentiellement la même chose, mais en plaçant des démons et en réclamant cette propriété pour eux-mêmes et pour Satan. Oui, c'est exactement cela, dit Joyce. Bon, 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 bien, dit Rolf. Donc, la première chose à faire, c'est maintenant de visiter soigneusement tout le terrain pour enlever toutes les malédictions. Je veux être certain de chasser tous ces démons portiers afin que ces gens ne puissent pas venir chez nous si facilement en faisant une projection astrale. Je parie que c'est la raison pour laquelle nous avons eu tellement de problèmes au cours des mois passés avec ces esprits humains qui faisaient de la projection astrale. Je ne savais pas comment me débarrasser de ces démons portiers. Quand nous aurons nettoyé maintenant le terrain, eh bien nous continuerons par la maison. Et tout le monde approuva et ils allèrent dehors. Cela leur a pris environ une heure pour faire soigneusement le tour de toute la propriété. Et ils découvrirent plusieurs endroits où se trouvaient de la cire fondue provenant de cierges noirs. Bien entendu, il y avait aussi des fines branches disposées aux quatre coins du terrain. Elles enlevèrent toutes ces branches, brisèrent les incantations et commandèrent aux démons de partir par le saint nom de Jésus-Christ. Ensuite, les femmes s'attaquèrent à l'intérieur de la maison. Oh, ce n'était pas une tâche facile, car il y avait une multitude d'endroits où des objets occultes auraient pu être cachés. À mesure que la journée avançait, l'oppression démoniaque devenait de plus en plus intense dans la maison, et une affreuse odeur de soufre et de pourri commençait à imprégner toutes les pièces, car les démons, il faut le savoir, les démons puent, sentent mauvais. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez toujours des bâtonnets d'encens brûlant dans les librairies occultes ou chez certaines personnes dans leur salon. Ils ont des bâtonnets d'essence qui brûlent pour camoufler l'odeur des démons. Ils sont donc allumés pour masquer la puanteur dégagée par les démons. En cherchant, les jeunes femmes ont trouvé une poignée de porte en cristal dans la chambre de Elsie. Je dis bien une poignée de porte en cristal. Oh, je n'ai pas vu de choses semblables depuis que j'étais tout petit, dit Rolf. Je suis certain que nous n'avons jamais eu ici quelque chose de semblable. Quel étrange objet ils ont laissé là. Oh, c'est pas tellement étrange, dit Joyce. Tout ce qui est en cristal peut être utilisé pour communiquer avec les démons. Qui se douterait, oui, qui se douterait qu'une poignée de porte en cristal pourrait être utilisée pour cela? Et c'est la raison pour laquelle les cristaux sont si appréciés dans les mouvements du Nouvel Âge et les mouvements occultes. Nous avions l'habitude de les appeler des pierres magiques avant que le Nouvel Âge ne les popularise. Et de telles poignées de porte sont souvent installées dans les maisons des satanistes de haut niveau. C'est en somme une sorte de symbole de leur statut. Ils détruisèrent donc cette fameuse poignée de porte. Et vers la soirée, chacune se sentait malade, surtout Esther. Elles se rassemblèrent tous dans le salon pour prier. Elsie se leva pour chercher de l'huile et de faire une onction sur chaque personne. Bertha, Joyce et Rolf s'assemblèrent debout autour d'Esther. Et au moment où Elsie revenait de la cuisine, voilà qu'elle fut soudainement frappée par derrière par une force invisible. Et elle s'étala tout de son long par-dessus le dossier du divan. Elsie était tellement petite qu'elle était parfaitement encastrée dans le coin du divan. « Aidez-moi, s'il vous plaît, à me redresser !» cria-t-elle. Joyce et Bertha l'aidèrent donc à se remettre sur pied. Eh bien, ces démons ne sont pas très heureux de notre petite réunion de prière, dit Rolf. Et ils commencèrent à se sentir un peu encouragés. Après avoir beaucoup prié, ils ont enfin pu dîner et aller se coucher. Ils étaient vraiment épuisés. Et à nouveau, la lumière bleue revint flotter dans toute la maison et les réveilla. Parfois, elle commençait à même à jeter des éclairs intermittents. Vers le milieu de la nuit, Esther se leva pour aller dans la salle de bain. Boum ! Et arrêtez un peu, hurla-t-elle. Je te le commande d'arrêter au nom de Jésus. Bertha et Rolf se précipitèrent à la porte de la salle de bain, mais ils ont vite vu qu'ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Esther, s'il vous plaît, s'il te plaît, ouvre la porte, cria Bertha. La poignée de la porte remuait violemment, mais je ne peux pas l'ouvrir, dit Esther. Elle n'est pas fermée à clé, mais je ne peux pas l'ouvrir. Les démons m'ont carrément mis KO dans la baignoire. Rolf alla chercher de l'huile pour l'onction. Ce n'est que après avoir oint d'huile la poignée de la porte et commandé aux démons de partir qu'ils purent enfin ouvrir la porte. Esther était contusionnée, vraiment contusionnée, mais sans plus. Alors avant l'aube, Joyce se leva pour aller à la salle de bain et elle trébucha sur quelque chose de mou dans le salon. « Pouah ! Ah là là !» s'exclama-t-elle en allumant la lampe. La maison était restée complètement fermée à clé pendant toute la nuit. Mais voilà que là, au milieu du salon, se trouvait un cadavre d'oiseau. Et ses ailes étaient étendues et ses plumes soigneusement disposées en pentagramme auprès de lui. Elles ne dormirent pas plus longtemps cette nuit-là, et on le comprend. La puanteur se faisait de plus en plus forte dans la maison. Les jeunes femmes et Rolf lavèrent à fond les murs, frottèrent les moquettes, regardèrent sous les meubles, défirent complètement les lits, mais furent incapables de trouver par quel moyen les démons ont pu entrer et pénétrer dans la maison. Même le fait de prendre une douche devenait un véritable défi. Quelques jours plus tard, ils étaient presque désespérés. Ils avaient tous prié de toute leur force, demandant au Saint-Esprit de leur montrer ce qu'elles n'avaient pas encore compris. Finalement, Bertha trouva la clé du problème. Et regardez ce que je viens de découvrir, s'écria-t-elle depuis la chambre d'Esther. Ils se précipitèrent tous pour voir. Alors là, ils ont pu voir une minuscule chose, un minuscule clou qui était planté dans le crépi du plafond, formant ainsi un pentagramme. Elles regardèrent dans les autres pièces. Évidemment, il y avait un pentagramme formé avec des clous sur le plafond de chaque pièce. Ça, c'était donc la clé du problème. Dès que les clous ont été arrachés et jetés, et que les incantations correspondantes ont été brisées, enfin la maison a pu enfin être totalement purifiée. Et tout cela leur a pris presque 2 semaines, il faut bien le dire, 2 semaines de recherche intensive pour que la maison de Rolf soit enfin totalement nettoyée. Des incantations avaient été prononcées sur les miroirs même pour qu'ils puissent servir de porte aux démons pour entrer dans la maison. Lorsque la maison de Rolf fut enfin purifiée, ce fut à nouveau la paix complète. Tous les chrétiens, chers amis, devraient être avertis de ce problème possible, surtout les pasteurs et les responsables chrétiens. Donc, ne négligez jamais la possibilité d'être lié par une incantation qui serait destinée à vous mettre spirituellement en cage. Et ces incantations peuvent soit vous empêcher de voir les mauvaises actions de quelqu'un, soit vous pousser à vous opposer à une personne qui n'a rien fait de mal et à vous forcer à croire toutes sortes de mensonges la concernant. Si vous pensez que quelqu'un peut vous avoir lancé une telle incantation, alors commandez simplement que cette incantation soit brisée au nom de Jésus-Christ. De terribles dégâts sont causés dans les églises chrétiennes, ainsi que aux relations entre les chrétiens, à cause de l'emploi de ces incantations. Nous devons donc toujours veiller et être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Personne n'est immunisé contre une attaque de ce type. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Prions. Que nos âmes s'élèvent à toi, Seigneur, Dieu puissant et bon, qu'elles s'humilient dans le sentiment de ta présence et de ta puissance infinie. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour oser te prier? Comment prétendrions-nous subsister devant toi, si ce n'est par pure grâce? Notre faiblesse est trop grande pour que nous puissions accomplir ta volonté. Nos cœurs sont sans cesse portés à se révolter contre elle. 1000 passions les agitent, 1000 craintes les troublent. Et nous, nous sentons dépourvus de toute lumière et de toute force. Ô Seigneur, préserve-nous du malheur de nous confier en nous-mêmes. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Il faut que toi-même nous préserve du mal, que tu nous sanctifies par ta sainte parole et par ton esprit, afin que nos âmes et nos corps soient conservés sans reproche. Ô, viens à notre aide. Ne nous abandonne pas, ô Dieu de notre salut. Nous te supplions d'accorder à chacun de nous les grâces qui lui sont nécessaires, car nous avons tous notre fardeau à porter et chacun doit combattre contre quelque danger personnel, quelque besoin, quelque chagrin, quelque péché qui l'enveloppe plus aisément. Si tu nous soutiens, Seigneur, nous serons fortifiés. si tu nous délaisses et nous livres à nous-mêmes, nous ne connaîtrons que souffrance et que misère. Ô, fais naître dans nos âmes une foi sincère qui subjugue nos doutes, notre incrédulité et qui nous amène au pied de notre Sauveur avec confiance et joie. Bénis nos familles et nos amis, et pitié de tous ceux qui souffrent, et daigne exaucer nos imparfaites prières. Nous te les offrons au saint nom du divin Sauveur qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études un peu difficiles cette fois et inhabituelles. Mais j'ai dit, n'est-ce pas, que pour ceux qui ont de la peine à comprendre tout cela, il vaudrait mieux d'écouter cette série à partir de l'étude numéro 5. Pour ceux qui trouvent que tout cela est un peu étrange, à partir du CD numéro 5, là, tout un chacun pourra comprendre que c'est la stricte parole de Dieu. Pour les catholiques, évidemment, c'est un peu plus facile parce que certains d'entre eux ont connu des exorcistes, des monseigneurs, certains cardinaux. Oh, l'exorciste dans le milieu du catholicisme, c'est assez rare. Il y a de temps en temps un homme entre tous ceux qui sont choisis, qui a reçu le don de exorciser. Et pour eux, donc, c'est quelque chose qui existe, et ils le comprennent. Alors, chers amis, à demain matin pour la suite de cette série. Et je vous dis encore une fois, comme le Seigneur qui vous aime, je vous aime de tout mon cœur et je vous embrasse tous avec tout mon amour. Soyez bénis et n'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Au revoir, à demain, Dieu voulant.